va prier, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais te demander ce que Paul, ton apôtre, rempli de ton esprit, priait pour, entre autres, les églises que tu lui as permis, par ta puissance, de fonder, entre autres celle d'Éphèse. Il priait, Seigneur Dieu, il te demandait que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves, à nous tes enfants? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur et puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force? Tu l'as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci d'avoir mis tout sous ses pieds et que tu nous l'as donné comme chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, Seigneur, merci de nous accorder, encore une fois par ton Saint-Esprit que tu nous as donné par la régénération, fruit de ton œuvre. Et merci d'illuminer ta parole dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 2, en passant, merci à toute l'équipe. Pour ceux qui se demandent tout le temps pourquoi je suis passé là, je ne veux pas vous traumatiser, ça vous donne une pause. Mais en même temps, c'est pour encourager aussi notre communion fraternelle entre nos églises. Et puis, bientôt, je dois aller à Victoriaville, encourager notre église là-bas aussi, avec le pasteur Sylvain Albert, qui... vraiment que son équipe font un bon travail de répandre l'Évangile dans tout Victoriaville. Ça, c'est très encourageant. Et puis, François, avec qui je faisais les émissions à l'heure de la Bonne Nouvelle, m'a invité à prêcher chez eux, à Lévis. Fait que dimanche prochain, vous allez être tranquille, je ne serai pas là. Je vais être à Lévis. Et Carl m'a demandé aussi quand est-ce que on va aller visiter à Québec. J'ai dit non à date à mes amis en France. OK. 1, 2, 1, 3. Il nous est dit, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et ça, c'est très encourageant pour nous, parce que comme Paul le rappelle aux Colossiens, au chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » De la même manière qu'il est écrit aux Éphésiens en disant, 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par pure grâce qu'on est sauvés. Aucun de nous mérite d'être sauvé. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait par son amour. » Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler entre nous autres toujours. Dieu nous a tellement aimés qu'il a souffert d'une manière inimaginable en se faisant humain. Il l'avait annoncé déjà dans Ésaïe que quand il était pour s'incarner en être humain comme il nous a fait, il était pour venir vivre au milieu de nous dans la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert énormément, a vécu énormément d'injustices dans sa vie, de trahison. Et il a appris l'obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix, en acceptant la volonté de son Père de se faire crucifier sur du bois devant tout le monde pour être déclaré maudit de Dieu par la justice de Dieu. Il est maudit de la malédiction qu'on était tous supposés de recevoir. Mais parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on est délivré de cette colère qui s'en vient sur le monde. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je nous encouragerais de faire ce que Paul nous rappelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, tous ceux, vous avez tous cru en Christ, si? Votre espoir, c'est Jésus-Christ. Faites attention aux gens qui essaient de vous tromper pour que vous espériez dans vos œuvres. Nos œuvres sont simplement la manifestation du fruit de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le commandement du Seigneur Jésus, c'est quoi d'après vous? S'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, l'amour de Dieu qu'on reçoit est finalement, on pourrait dire, la lumière dans laquelle on apprend à s'aimer les uns les autres, comment on apprend à se recevoir les uns les autres, comme Christ nous a reçus. Et en même temps, si on est ici aujourd'hui, c'est sûr que le Seigneur s'occupe de nous. Il a fait plein de choses au milieu de nous, par soit des frères et sœurs, ou carrément directement. Mais même quand il faisait ça par quelqu'un, c'était lui qui était derrière la personne. Mais des fois, il le fait directement pour nous montrer qu'il est vraiment au milieu de nous. Jésus nous a promis, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La fin du monde n'est pas encore arrivée. Fait que Jésus est ici, au milieu de nous. Et puis la supplication qu'on fait depuis plusieurs semaines dans l'équipe, c'est qu'on se réveille à sa présence, qu'on soit tous conscients qu'il est au milieu de nous et qu'il nous aime. C'est très important, afin que notre Dieu ne soit pas simplement, je ne sais pas comment vous dire ça, là. Tu sais, il y a certains commerces qui vont bien. D'après vous, qu'est-ce qui est la force de Costco? Je ne vais pas faire de la publicité, là. Mais je veux juste rappeler quelque chose qui est vraiment spécial chez Costco. Comment? Bien, dans le sens, on est béni parce que Marc-André travaille là. Mais ce que je trouve le plus trippant de ce magasin-là, c'est comment c'est facile de ramener quelque chose. Tu n'as pas besoin de prouver puis de faire, tu sais, ils te reçoivent sans problème, ils prennent ton affaire puis ils te remboursent sans problème. Pas beau, ça? Eh bien, le Seigneur, la même chose. Il veut qu'on apprenne à marcher avec lui dans sa lumière, et c'est dans sa lumière qu'on va voir où le Seigneur, finalement, nous montre qu'on a passé à côté. Et comme il dit, ceux qui marchent dans la lumière, bien, ils nous purifient de tout péché. N'oubliez pas, parce que l'interprétation, finalement, de nos vies, faites attention. Qu'est-ce qui précède votre interprétation de vous-même? Si vous vivez selon la philosophie de ce monde aujourd'hui, du monde, bien, vous risquez de mal interpréter vos actions. Par contre, vous vous rappelez un jour, il y a un pharisien qui a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Est-ce que vous vous rappelez, tu sais, d'après vous, qu'est-ce qui serait, selon le monde, le plus grand péché, d'après vous? Si quelqu'un vous demanderait, c'est quoi le plus grand péché? Comment? Le meurtre? Comment? L'orgueil, ça n'aide pas non plus, oui. Mais j'ai été fasciné que Jésus a dit aux pharisiens, parce que c'est vrai, premier réflexe, ça serait de penser que le meurtre, ça serait le... Hein? Surtout si vous êtes la victime. Mais Jésus a dit que le plus grand commandement est le plus grand péché. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre capacité et notre prochain comme nous-mêmes. Et de ne pas aimer Dieu, de négliger notre communion avec Dieu pour Jésus, selon son interprétation, ça, c'est le plus grand péché. Mais pour nous autres, hein, on pense que ce ne serait pas si pire que ça. Bon, je l'aime un petit peu, tu sais. Le dimanche, je l'aime le matin, je me lève, je m'en vais à l'église. Le Seigneur, pour qu'on puisse marcher avec lui, comptez pas sur votre chair. Par contre, apprenez à obéir par la foi. Obéir le Seigneur, c'est d'obéir sa parole. Et que quand vous allez faire quelque chose par la foi, n'oubliez pas, parce que la foi, ce n'est pas une croyance sans doute. On peut être rempli de doutes, mais vous pouvez vaincre tous les doutes que vous avez dans votre tête simplement en faisant confiance au Seigneur, ce qu'il a dit, et de faire ce qu'il dit. Une fois, j'avais lu dans un petit livre une illustration d'un gars qui expliquait la foi. Il dit, imaginez que vous êtes finalement dans un immeuble à peu près au 2, 3e, 4e étage, et que le bâtiment est en feu, et qu'il y a plein de fumée, et que là, finalement, vous entendez des gens en bas dans la rue qui vous disent « saute, saute de la fenêtre ». Tu sais, sachant qu'il y a des malades mentales qui se promènent dans les rues, qui aiment ça voir du monde cracher à terre. Il dit, est-ce que vous auriez peur? Il dit, par contre, si vous entendez la voix de votre ami ou par exemple votre père, que vous reconnaissez sa voix qui dit, fais-moi confiance, saute, parce que les pompiers ont, tu sais, mis un grand récepteur pour nous recevoir. Moi, j'ai trouvé que c'était une super belle illustration de la vraie foi. Notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ peut déterminer toute notre action, toute notre vie. Et c'est comme ça qu'on va être capable de persévérer jusqu'à la fin. Comptez pas sur vous, parce que comme le Seigneur dit, c'est sûr que la chair a des bonnes intentions, mais est faible. Par contre, comptez pas non plus sur les gens autour de vous. Aimons-nous les uns les autres. OK? On va apprendre à s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous aime. Ça, c'est très important. Mais comptez pas sur les gens. Je sais que ça a l'air méchant, ce que je vous dis là. Je ne veux pas être méchant, là. Mais est-ce que vous avez des expériences en marchant avec le Seigneur que quelquefois vous avez été déçu des gens? Hein? Je ne vous ai pas déçu, mais une couple de fois? Le Seigneur nous demande d'avoir la foi en lui et en lui seul. Et c'est comme ça qu'on va le connaître pour marcher avec lui dans son amour. Et dans son amour, c'est le commandement qu'il nous a donné. Quand le Seigneur m'a pris par la main et qu'il m'a amené, malgré moi, à faire de la radio pendant 20 ans, le message finalement que je répétais pendant 20 ans de temps, 4 fois par jour, puis j'ai été mis sur la liste noire de plein de dénominations au Québec. C'était le fun parce que les pasteurs, ils étaient enragés contre moi puis ils parlaient contre mon émission de radio, ce qui me donnait plein de publicité pour la radio. Mon message était clair. D'abord, si vous êtes vraiment né de nouveau, que vous avez mis votre espérance en Jésus-Christ, que vous êtes régénéré, vous ne pouvez plus être perdu. Vous êtes sauvé. Et faites attention aux gens qui vous mettent sur un programme comme, par exemple, je ne sais pas, les adventistes qui ramènent les gens sous le judaïsme. L'apôtre Paul a combattu ça toute sa vie. Les judaïsants voulaient retourner dans les églises où Paul avait annoncé l'Évangile aux païens. Et souvent, les Juifs qui avaient cru en Christ, rappelez-vous, tu sais, quand il s'en va à Jérusalem, une fois, Jacques et puis les anciens de l'église de Jérusalem le reçoivent en disant, « Écoute, écoute, Paul, regarde, il y a eu un grand réveil ici à Jérusalem. » Des milliers de gens sont convertis et les Juifs sont devenus zélés pour la loi. Et ils entendent parler de toi que tu es contre le temple, tu es contre la circoncision, tu es contre. Paul dit, non, écoutez les gars, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que vous savez pourquoi finalement le Seigneur avait donné comme signe la circoncision et Paul dit aux païens, ne vous faites pas circoncire. Parce que finalement c'était l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, et que de sa semence, il a fait un peuple. Et les Juifs, c'est un peuple quand même hors norme. C'est un peuple que Dieu s'est fait pour venir par leur chair. En plus, par une famille très précise, la famille de David, le roi David. Et quand il est venu, est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit à ses disciples un jour, quand il était à Jérusalem, « Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours ». Et quel était le réflexe, d'après vous, des disciples, quand Jésus a dit ça à côté du temple de Pierre? Bien, ils ont regardé le temple de Pierre en disant... C'est comme s'il y avait des années en disant, écoutez, comprenez ce que j'essaie de vous enseigner. Tout en Israël était qu'une image de celui qui devait venir pour tout accomplir. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, comme on l'a regardé ensemble, nous dit une remarque extrêmement importante. Si vraiment vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre souverain sacrificateur. C'est lui la vraie victime, l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est par son sang que nous sommes pardonnés et rachetés. Et c'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand il parle de la résurrection, il rappelle que Jésus-Christ est le dernier Adam. Toute espérance en Adam est finie en Jésus-Christ. C'est le dernier Adam et par sa mort et sa résurrection, il est devenu le premier homme nouveau. Il a inauguré la nouvelle création. C'est pour ça que Jean nous rappelle ici, concentrez-vous sur lui et sur les richesses à venir. Oui, le Seigneur va s'occuper de nous ici. Quand vous lisez l'Ancien Testament, rappelez-vous que vous lisez l'illustration de tout ce qui était accompli en Jésus-Christ. Quand il est mort sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi plusieurs phrases, mais une des plus importantes. Une des plus importantes avant de mourir, il a dit maintenant, tout est accompli. Tout est payé, tout est accompli. Et c'est pour ça que souvent les Juifs venaient le voir, un peu comme le jeune homme riche, mais aussi beaucoup de Juifs venaient le voir. C'est quoi les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous autres dans les œuvres? Jésus, il n'a pas dit les œuvres, il a dit l'œuvre singulière de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vient d'envoyer. Et à croire en Christ, ça voulait dire maintenant, OK, toute la théocratie en Israël, c'est fini. Toutes les feintes en Israël, c'est fini. Regardez, il dit, quiconque a cette espérance se purifie comme il a eu peur. Dans 1 Jean 1,7, il nous rappelle, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on est purifié et pardonné par le sang de Christ si on marche avec lui dans sa lumière, son interprétation. Faites attention de vivre dans votre interprétation des fautes et des pas fautes. C'est très important. C'est lui le législateur. C'est lui qui va nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et c'est comme ça qu'on doit tout réapprendre à avoir un renouvellement d'intelligence. Faites attention à des gens qui vont essayer de vous séduire en vous ramenant vers les fêtes d'Israël, vers les lois de l'Ancien Testament. Faites attention. L'œuvre de Dieu, c'est de, d'abord, avant tout, pu croire en vous. Est-ce que vous vous rappelez le but de la loi, de l'alliance que Dieu a établie par Moïse? Le but de la loi, c'est un des buts de la loi, c'était de freiner le mal. Ça n'enlève pas le péché dans notre vie. Ça fait simplement nous faire sentir coupables des fautes. Et comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains, la loi, quand on transgresse un de ses commandements, c'est pour nous montrer, ça identifie le péché. Parce que le péché dans notre vie, là, à moins d'avoir la loi, les commandements de Dieu, surtout les 10 commandements, qui sont les commandements du cœur du Seigneur. Ben, vous connaissez l'exemple, là, c'est un bon exemple, facile à se rappeler. Tu sais, le gaz naturel, ça sent quoi du gaz naturel? Ça sent rien. Donc, pour protéger les gens, que si jamais il y a une fuite de gaz chez vous, on a ajouté un deuxième gaz dedans. Et le deuxième gaz, son rôle, c'est de puer, de sentir mauvais. Et c'est par ce deuxième gaz mêlé au gaz naturel qu'on peut identifier le gaz naturel qui est danger de mort dans votre vie. C'est la loi qui parle, entre autres, surtout les 10 commandements, par le premier jusqu'au dernier. Ces 10 commandements-là vont identifier le péché dans notre vie. Et la loi rappelait à chaque année pourquoi les Juifs célébraient la Pâque. La Pâque était le souvenir. Ce n'était pas une fête qui ajoutait du mérite aux Juifs. C'était comme quand nous, on prend la communion le dimanche. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez ce cup, vous y proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour nous rappeler que si on est sauvé, on est sauvé par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Les Juifs, eux autres, à chaque année, à la Pâque, le Seigneur dit, « Rappelez-vous comment je vous ai sauvé de Pharaon. » Et Pharaon est simplement une image de l'ennemi dans les ténèbres de ce monde. N'oubliez pas, tout l'Ancien Testament, c'est de l'illustration. T'sais? Et puis, finalement, il les a sauvés par pure grâce, pas par leurs œuvres. Il les a sauvés simplement par la foi. La foi vient de, OK, je vais faire ce que tu me dis, je te fais confiance. Et puis Moïse avait dit à tout le peuple, Dieu me dit, prenez un agneau, tuez-le, mettez le sang sur la porte, qui est encore une fois l'illustration de comment Dieu un jour va sauver tous ceux qui vont se tourner vers lui, de toutes les nations du monde. Israël avait été mis à part à partir de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, pas juste pour que Israël soit sauvé. C'est par Israël, comme Jésus le dit à la Samaritaine, c'est par les Juifs. Et Jésus, c'était un Juif, selon la chair. Et c'est en mourant sur la croix qu'il accomplit la promesse que Dieu avait faite à Abraham en disant, « Je vais te bénir, je vais te multiplier, et par toi, toutes les familles de la terre vont être bénies. » Pas juste Israël. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de vraiment demander au Seigneur continuellement, « Rappelle-moi ta parole. » Sans la parole de Dieu, on ne peut pas, surtout la nouvelle alliance, tout est accompli. Et le vrai commandement maintenant qui accomplit tout dans notre vie, c'est de s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Donc, il nous dit ici, « Marcher dans la lumière, c'est en marchant dans le commandement de Christ. » Par exemple, il nous rappelle dans Jean 15, quand il leur dit son commandement, 12, versets 12 et 14, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. » Ça, pour moi, ça me touche tout le temps quand je lis ça. Le Seigneur dit, « Regarde, si tu veux me manifester que tu m'aimes, tu sais, parce qu'on aime louer le Seigneur, hein? On aime être reconnaissant devant lui. Bien, le Seigneur nous le dit ici. Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Apprendre à s'aimer les uns les autres. Et ça, c'est vraiment important. Malgré tout ce qui peut nous arriver, parce que c'est... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais apprenons à nous aimer les uns les autres en comptant sur le Seigneur. OK? Parce que, soyez pas surpris que certaines personnes vont peut-être des fois profiter de vous parce que vous êtes gentil avec eux autres. Et ça risque d'être dur et blessant. N'ayez pas peur. Vous risquez d'être déçu par des personnes des fois. Mais faites-le pas juste par une valeur que la personne a à cause de Christ. OK, Seigneur, je vais le faire parce que je te fais confiance. Et c'est comme ça qu'on va le connaître. Et c'est comme ça que, honnêtement, le Seigneur va nous faire une grâce incroyable de nous amener avec lui dans ses œuvres à lui. Avez-vous remarqué comment il nous a amenés dans toutes sortes d'œuvres? Non, c'est fascinant. Puis je remercie tout le monde ici qui vous faites un budget sans vous exposer à la détresse, sans vous faire de pression. Toute personne ici qui donne. Puis même, j'en ai parlé avec Yvan. Tiens, Yvan, tu disais que beaucoup de gens donnent pour Haïti. Puis moi, je trouve ça béni quand même, parce que d'un côté, parce que est-ce que vous réalisez que quand... Qui c'est qui était là au tout début quand il nous a amenés à Tiverny? Hein? Vous vous rappelez comment c'était le village? T'sais? Vous avez fait le ménage dans la maison, vous vous rappelez? Pas juste des coquerelles, des gros rats qui se sauvaient. Il y avait peur des madames. Parce que les madames faisaient le nettoyage aussi avec... Mais en même temps, quand tu voyais la pauvreté de ce village-là, ça te brise le cœur complètement. Tu te sens quasiment coupable qu'on mangeait. On voyait les petits-enfants s'en venir autour de nos tables, nous regarder, tu sais. Et puis, tu te rappelles, tu dis, écoute, Seigneur, comment on va faire pour les aider? Je dis, le besoin est gigantesque ici, c'est incroyable. Et puis, même, je me rappelle, Dr. Bouchard, à l'époque, avant qu'il meure, il me disait, écoute, Jeff, ça ne donne rien de leur donner des vermifuges, parce qu'il disait, le problème, ils ont des gros problèmes de verre. Puis, tu sais, en plus, tu ne manges quasiment pas, puis tu as des problèmes de verre. Les vers mangent ton stock. Les pauvres enfants étaient tellement affaiblis que lui, il est médecin, il savait comment diagnostiquer tout ça. Puis même, il y avait le docteur Richard qui était venu, qui était dentiste. Il essayait d'aider finalement. Il dit, dès qu'on touche une dent, elle casse tout de suite parce qu'ils sont trop sous-alimentés, ils sont trop affamés. Et puis Gaétan me dit, ça ne me donne rien qu'on leur donne des vermifuges. Mais je dis, pourquoi, Gaétan, comment? Écoute, t'as pas vu, les petits-enfants, là, ils ont tellement faim que j'en ai vu une coupe prendre de la terre, puis se faire des petits gâteaux, puis manger de la terre. Ils mangent des vins, ils mangent, tu sais. Écoute, moi, je voyais ça, là, il fallait que j'aille me cacher. Les larmes me venaient aux yeux, je disais, écoute, Seigneur, c'est capotant, ça. Je veux dire, comment on peut, nous autres, Haïti est juste à une heure d'avion de la Floride, puis en Floride, là, les revues qui veulent devenir populaires, ils mettent toujours des diètes pour que les gros maigrissent. Hein? C'est bon, là. Je capotais bien raide. Notre injustice, notre méchanceté, elle repose sur un seul problème. On n'aime pas les autres, on s'aime trop. Faites attention aux gens qui s'admirent, qui s'adorent, qui veulent se présenter comme adorables, ils ne voient pas les autres. Ils n'organisent pas leur vie en vue des autres. Ils organisent leur vie envers leur bonheur au détriment des autres sans arrêt. Et puis, c'était le fun parce que, tu te rappelles, hein, on a prié, on a crié au Seigneur, en disant, écoute Seigneur, au secours, monte-nous. Et puis, comme je disais à Normand, moi, je ne demande rien à l'Assemblée. Je veux voir si c'est le Seigneur. Je veux voir le Seigneur. Moi, là, au milieu de vous autres, là, je veux voir Jésus-Christ. Pour moi, c'est fondamental. C'est extrêmement important. Je vous le dis, tu sais, parce qu'à un moment donné, Réjean m'a dit quelque chose. Le Seigneur t'a utilisé d'une manière souvent. Parce qu'à un moment donné, je priais le Seigneur, je disais, écoute, les fenêtres sont à veille de tomber. Tu te rappelles comment, quand tu es arrivé la première fois ici, il n'y avait plus de, comment ça s'appelle, là, le stock? Plus de coquine. Et puis finalement, c'était... Puis là, je disais, écoute, Seigneur, comment on va faire ça? Ça va coûter une fortune, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je ne veux pas demander à personne, tu sais, écoute, au secours, tu sais. Regarde, Seigneur, je te le demande à toi. Tant mieux si j'ai un problème. Peut-être que je vais avoir une chance de voir. Régent arrive, je ne le connaissais pas quand il est arrivé. Puis à un moment donné, je vois des gars arriver. Ils engagent des gars, ils ont toutes fait les fenêtres au complet, puis ils ont peinturé. Pas croyable? Assez frais! Moi, je capote bien raide quand je vois ça. Moi, j'aime ça qu'on ait des petits jardins secrets avec le Seigneur. Je trouve ça trop trippant. Je veux voir le Seigneur au milieu de nous autres. C'est ça qui fait qu'on est content de se retrouver ensemble, pas parce qu'on serait, nous autres, les meilleures personnes du monde. Hein, on est un petit peu ordinaire. Sans être méchant, là, je ne veux pas capoter sur personne. Je ne parlerai pas de toilette à soir, aujourd'hui. Alors, regardez bien. Plus on va voir Christ au milieu de nous autres, Christ se manifeste par les frères et les sœurs. Et c'est ça qui est fascinant dans l'Église. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pour ça que apprenons à dépendre beaucoup plus du Seigneur que des gens. Et vous allez voir comment le Seigneur va amener lui-même les gens à répondre souvent aux prières qu'on lui fait à lui. Et ça, c'est encore plus fascinant de voir un frère, une sœur répondre à un besoin que vous avez fait juste connaître au Seigneur. Et puis, la personne n'était même pas au courant de ce que vous avez demandé, et elle vient faire. Hein? Combien de fois qu'on l'a vécu, cette affaire-là? Trop beau, ça. Tu sais, quand le Seigneur t'avait même donné des intuitions en Haïti, tu te rappelles? Il était assez spectaculaire, tes intuitions. Surtout celle des deux chirurgiens, c'était la plus drôle, celle-là. Hein? Tu te rappelles? On finissait notre voyage, puis à chaque fois qu'on finissait le voyage, on disait tout le temps, « Seigneur, montre-nous ta signature. » C'est pour ça que c'est important, quand on vient de nos voyages missionnaires, Puis même, j'ai encouragé au Saguenay la même chose, puis dans toutes nos églises, que tous ceux qui vont faire des voyages missionnaires devraient toujours raconter qu'est-ce que tu as vu du Seigneur. Parce que c'est ça qui est fascinant. Puis on a vécu des affaires, moi plutôt, c'était trop beau. Ça, ça a développé notre amitié ensemble dans le Seigneur d'une manière spéciale. Et l'amour, le commandement de l'amour que le Seigneur nous demande de s'aimer les uns les autres, ça va venir en marchant avec le Seigneur. En tant que famille, c'est la même chose. Si vous voulez développer l'amour de Dieu dans votre famille, faites attention, parce que vous êtes dans une époque de consommateurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, comme certains frères me disaient, hein, qu'est-ce que tu me rappelais déjà? C'est ça. Il dit, beaucoup de gens divorcent aujourd'hui parce que l'autre est moins attirant. Puis, on découvre une autre personne plus attirante. Et puis, les gens disent, hey, j'ai juste une vie à vivre. Je veux en profiter au maximum. Je veux profiter de tout le monde. Je suis juste un écœurant qui veut profiter de tout le monde. Pas vrai? Et là, le Seigneur dit, si vous vous mariez, mariez-vous à la gloire de Dieu. Et savez-vous que toutes les gens mariés ici, là, qui est marié? Il n'a pas mal, hein? Savez-vous, vous êtes une illustration de Christ et l'Église. C'est pas n'importe quoi. Le Seigneur, un jour, quand on va rentrer devant lui, il va nous demander, au gars, il va dire, « As-tu aimé ta femme comme moi j'ai aimé l'Église? » Puis il va dire à la femme, « As-tu aimé et respecté ton mari comme l'Église m'a respecté? » Et nos enfants vont apprendre en nous regardant vivre. Faites attention de juste parler. C'est pour ça que moi, là, c'est vraiment important que je suis vraiment content en ce moment de voir que l'Église, ça y est, les équipes se remettent à marcher, comme l'équipe de tout le théâtre. Bien, on était à la magasin, vous rencontrez hier. C'était tellement beau de voir ça. Puis tu avais ton petit gars qui était le photographe officiel. Quoi qu'il n'y avait pas d'autre, prendre son drone, à cause de l'aéroport qui n'est pas loin. Mais, je vous dis, c'est fascinant de marcher ensemble. Pierre, toute ton équipe, finalement, de visiter les prisons, d'aller annoncer l'Évangile. Et puis, on a appris que l'aumônier provincial va inviter l'équipe du théâtre à aller dans plusieurs prisons faire le procès de Dieu. Pas beau, ça? Je vous dis, il se passe des affaires fantastiques. On vit. Et puis, continuez à prier que Dieu nous réveille toute la gang. Tu sais, parce que c'est facile de s'endormir. Même sur la route, des fois, quand tu conduis, c'est marqué, tu sais, comment c'est quoi? Mort de fatigue. Tu t'endors au volant. Il ne faut pas s'endormir, nous autres, au volant. Donc, demandez au Seigneur régulièrement, réveille-nous. Remonte-nous de marcher avec toi. Et puis, la journée, finalement, qu'on va finir nos derniers jours, vu qu'on a appris à rechercher les choses d'en haut plutôt que de se faire une vie que ici, eh bien, la journée qu'on va partir, je sais que c'est épeurant là, pour certaines personnes, là, mais je ne sais pas, là, la journée que tu sais que tu meurs. De moi, des petites pilules qui fait que ça fait pas mal, tu sais. Tu me gèles et tout. Et puis, c'est fascinant, parce que je me dis, hey, wow, à soir, je soupe au souper, je soupe au ciel. Je vais voir Dieu, je vais voir Jésus-Christ. Puis en plus, on va voir plein, moi j'ai hâte de voir plein des amis qui sont rendus là en ce moment. C'est le fun, parce qu'une vie ici, dans le désert, elle ne sera pas trop longue, contrairement à l'éternité qui s'en vient. Mais encourageons-nous maintenant à devenir de plus en plus conscients que ça devient de plus en plus concret que l'éternité nous attend. Donc, le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous ne m'aimez pas, vous ne gardez pas mes commandements. Donc, c'est important. Paul rappelle aux Galates, chapitre 5, verset 14, il dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous réalisez que toute la loi et les prophètes, Jésus dit maintenant, j'ai tout accompli l'image, toutes les feintes, toutes les ordonnances, toute la loi qui montrait à quel point on était tous perdus. Israël, finalement, vivait comme des perdus continuels. Ils ne devaient pas devenir orgueilleux. Et ce n'est pas normal que certains, comme les pharisiens, sont devenus orgueilleux au point que, pensant qu'ils sont capables, comme des athlètes, d'accomplir extérieurement la loi, pas intérieurement. Est-ce que vous réalisez que c'est les pharisiens, le Sanhédrin, les hyper-religieux, c'est eux qui ont été à l'origine de tuer Jésus? Et Jésus l'a dit, parce que votre Père, ce n'est pas Dieu. Eux autres, ils étaient des adorateurs d'eux-mêmes. Ils parlaient de leurs œuvres, ils se vantaient d'être tellement meilleurs que tout le monde. Jésus dit non, votre Père, c'est le diable parce que vous voulez faire sa volonté. Vous voulez me tuer, et la raison est simple, c'est parce que je vous dis la vérité et vos œuvres sont mauvaises. Il faisait les œuvres seulement pour paraître devant les hommes, pas par amour pour les gens. Le vrai service, là, c'est devant Christ dans le secret qu'on le fait. Mais ceux qui veulent paraître, qui parlent toujours de ce qu'ils font, je suis désolé, faites attention à ces gens-là, c'est dangereux. Parce que finalement, ils s'adorent encore. Et comme Paul le rappelle dans Romains chapitre 1, Dieu nous délivre d'un des premiers syndromes que la chair produit, des adorateurs de la créature. Nous autres, on va devenir des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ et de son Père, par le Saint-Esprit qui va glorifier Jésus-Christ et l'amour que Dieu nous a manifesté en nous donnant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Est-ce que vous réglez qui c'est qui a mis toute sa confiance en Seigneur Jésus pour être sauvé? Levez votre main. Qui est-il? Ceux qui ne l'ont pas encore, je vous compte, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Est-ce que vous réalisez que si vous avez mis votre confiance dans le Seigneur Jésus, vous êtes parfaitement, totalement, entièrement sauvé. Il n'y a plus de problème pour vous. Les petits problèmes là, qu'on a tous les jours, là, c'est fourni avec la vie, ça. On s'ennuierait si on n'aurait pas. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à marcher avec le Seigneur, à cause de nos problèmes. Pas de problème, on va s'endormir au volant, puis on va passer à côté de la route. Mais nos petits problèmes de tous les jours sont les rendez-vous que le Seigneur Jésus nous donne. Comme dans le désert. Est-ce que vous vous rappelez la première crise quand ils ont traversé la mer que Dieu avait ouvert? C'est pas n'importe quoi. Tu vois deux murailles d'eau. Là, c'est quand même surnaturel, cette affaire-là. Ils sont de l'autre côté, puis le Seigneur les délivre des Égyptiens qui s'en venaient pour les détruire. L'armée, finalement, est complètement noyée. Ils s'en vont. Une journée ou deux après, ils ont soif. Il n'y a pas d'eau parce que le Seigneur les amène dans le désert. Puis là, ils commencent à s'énerver. « Hey, Moïse, il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte pour qu'on meure là-bas. Tu sais, Dieu, es-tu avec nous? » Ça, cette déclaration, est-ce que Dieu est avec nous? La colonne de feu et de fumée était là. Tableau noir, tu dis, t'es bonhomme, tu vois, mets tes lunettes. Et puis, tu sais, Moïse, il capote devant tout le monde qui crie contre lui, hey, « Mais nos besoins, j'ai soif, mes besoins! » Là, il a crié vers Dieu, « Seigneur, s'il vous plaît, Dieu. » Il dit, pas de regarde, je vais te montrer un rocher. Touche-le, frappe-le. Ce rocher, c'était Christ. L'image de Christ encore. Et puis, à un moment donné, ils ont faim. Il va faire descendre du pain du ciel. Puis, à un moment donné, ils veulent manger de la viande. OK. Le Seigneur, finalement, il fait pousser un vent. Puis, des cailles arrivent par milliers. Moi, je le trouve capotant, Dieu. Pas vrai? Tu sais, de nous aimer, nous autres, il faut qu'il soit totalement amour. Non, vraiment, come on. Pas vrai? Une chance qui est amour. Puis c'est le fun parce que il est infiniment amour. Une chance. Sinon, on aurait vidé le réservoir à peu près. Il nous aime d'un amour incompréhensible au point qu'il a donné son Fils unique. La parole de Dieu qui s'est incarnée. Et savez-vous quoi? Pendant que je dis ça, je veux juste nous rappeler, Jésus est au milieu de nous. Puis, demandez-lui d'être sensible à sa présence. Parce que ça ne donne rien de juste le lire, que Dieu est au milieu de nous, que Christ a dit lui-même, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Demandez-lui d'être sensible à tout ça, puis de développer une marche avec lui au milieu de nous. Et c'est comme ça qu'on va s'aimer de plus en plus, parce qu'on va voir, « Hey, c'est vraiment mes frères et sœurs. » C'est le fun, parce qu'on est une famille. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des frères et sœurs ici? Ils ont-ils toujours été gentils? Il n'y a pas des fois que ça tentait. Hein? Mais, si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, va voir ton père. Moi, j'étais le plus vieux chez nous, là, tu sais. Puis souvent, à un moment donné, mes parents, des fois, ils sortaient. « OK, Jeff, c'est toi qui vas les garder. » C'était pas tout reposant dans la famille. Tu comprends? Puis mon père me disait tout le temps, « Oublie pas, Jeff, tu n'as pas le droit de taper personne. » OK. Parce qu'à l'époque, les parents ils éduquaient leurs enfants, contrairement à aujourd'hui. Tu sais? Non, si tu faisais quelque chose de pas correct, tu le savais que c'était pas correct. Et puis, finalement, c'est la même chose, nous, dans le Seigneur. On peut garder ou ne plus garder la communion avec quelqu'un qui nous fait du tort. Vous n'êtes pas obligé de garder la communion avec quelqu'un, parce que même Paul nous enseigne, si quelqu'un se nommant comme frère, mais qui vit finalement dans l'impudicité, dans la méchanceté, dans le vol, dans le mensonge, il dit, s'il ne se repent pas, coupez la relation avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endurer toute la gang tout le temps. On remet les gens au Seigneur. Mais pour moi, le plus important, c'est de voir le Seigneur au milieu de nous autres. Ça, c'est le renouvellement continuellement. Moi, j'ai besoin de le voir. Je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ah, c'est subjectif, ça. » Bien, certainement. Tu sais, dans la parole, tu peux lire que Dieu nous a tellement aimés, ou encore une fois, tu peux lire même dans Romains que le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Tu peux le lire. C'est-tu plus intéressant de vraiment vivre comment Dieu vous aime? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été touchés par le Seigneur comment Dieu vous aime? Hein? Ceux qui ne sont pas encore arrivés, s'il vous plaît, demandez au Seigneur qu'il vous prenne dans ses bras. C'est un père qui aime ses enfants. Et puis, plus on voit qu'il nous aime, plus ça nous rassure. Plus notre attention est de plus en plus sur lui que sur nous-mêmes, sur le monde ou encore une fois sur les gens autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va développer une véritable relation et communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est fabuleux. Je vais finir bientôt, faites-vous en pas. J'ai quasiment fini. Je vais vous lire maintenant le restant du passage à partir du verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, deux points ici que Paul nous souligne. Pratiquer la justice par la foi, qui est au fond, qui coule de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et deuxièmement, d'aimer notre frère, nos frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce que Jean veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien né nouveau n'a jamais péché? Il y en a-t-il ici qui n'ont jamais péché depuis qu'ils sont nés nouveau? Levez pas votre main, s'il vous plaît. Sinon, vous allez faire le premier mensonge. Péché. En réalité, on peut tomber dans le péché parce qu'oubliez pas, on lutte contre notre chair. Et c'est pour ça qu'au début de sa lettre, il dit, je vous écris ça afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, qu'il lui confesse sa faute et le Seigneur est juste et fidèle pour nous purifier par son sang. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber dans le péché. Mais quand il dit, si on est né nouveau, on ne peut pas pratiquer le péché. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le péché? C'est... Comment? Dans le péché. Contrairement aux gens du monde, on ne peut pas se vanter de transgresser ce que l'amour de Dieu a mis dans notre cœur, qui résume au fond les 10 commandements. Tu mens pas contre les gens. Tu ne trompes pas les gens. Tu aimes les autres. Et en aimant les autres, ben, si tu as les moyens, quand quelqu'un a un problème, tu vas essayer de l'aider de manière concrète, parce que Jean il dit, faites attention, aimez pas juste en parole, aimez en action, aimez pour vrai. Si ton frère a un problème et tu as les moyens de l'aider, aide-le. Ce n'est pas de s'exposer à la détresse. Et puis, quelqu'un qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui est capable de vivre dans, je ne sais pas moi, dans le sens, dans le mal. Tu sais, je ne sais pas moi, j'ai la misère en ce moment de regarder la télévision. Parce que tous les téléromans et les films, c'est vraiment l'esprit du monde. Avez-vous remarqué, dans bien des films, les gars, c'est des gars de femmes. Tu sais, ils vont charmer plein de femmes. Tu sais, puis je ne sais pas comment vous expliquer ça, là, mais on banalise finalement l'impudicité. Et quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui trompe sa femme, qui trompe son mari, qui trompe une personne en affaires, par exemple, en volant des gens, en mentant les gens, et si vous vivez dans le péché sans complexe, tu sais, sans, tu sais, dans le sens, faites attention. La justice du malin, je sais que ça a l'air bizarre à dire que le diable a une justice, c'est une justice qui te met toujours, j'ai le droit de faire le mal, j'ai le droit de me venger, j'ai le droit d'haïr les autres, j'ai le droit de profiter des autres. Ça, c'est l'œuvre du malin. En réalité, pratiquer le péché sans avoir une conviction de péché qui nous arrête direct, en passant, juste dans notre tête, avant qu'on commette une faute, on se sent coupable. Parce que ça commence d'abord dans une idée, ça commence, tu sais, il y a une bonne illustration que Luther avait déjà donnée. Tu sais, à l'époque, les gens portaient des gros chapeaux, là, je ne sais pas trop. Il dit, écoute, tu ne peux peut-être pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête. En d'autres mots, tu ne peux peut-être pas empêcher une idée bizarre de passer au travers de ta tête. Mais il dit, par contre, tu peux empêcher l'oiseau à faire un nid dans ton chapeau. Tu peux empêcher aussi l'idée de s'installer dans ta tête pour dire, « Hey, wow, m'a trompé un tel, m'a y mentir, m'a le volé, et puis m'a être riche après. » Le Seigneur dit, « Écoute, on ne se connaît pas, chum. Faites attention. Je sais que la majorité d'entre vous, ça va bien, puis vous marchez dans le Seigneur. Dans le sens, ça se voit. Parce qu'on n'est pas 25 000, là. Mais au nombre qu'on est seulement, la consécration que beaucoup d'entre vous, vous faites, autant dans votre temps, votre argent, le soutien que vous faites les uns aux autres, manifeste que vraiment, il y a eu régénération. Et ça, c'est très encourageant. Et une chose aussi que j'aime le plus, un peu comme tu l'as mentionné plus tôt, le racisme au milieu de nous autres, il est complètement détruit. Parce qu'on est des frères et sœurs. On s'aime pour vrai. On est content de se voir. Pas vrai? Même si je suis blanc. Aimez-vous quand même? Je manque juste d'alémine. C'est moi comment ça s'appelle le stock, là? Pas assez bronzé. Même mes petits poutres, c'est des chocolats au lait. Non, c'est vraiment béni de voir l'amour de Dieu qui a fait de nous une communauté, qu'on est content d'être ensemble. Pour vrai. Et puis, ça nous fait du bien. Donc, pratiquer le péché, c'est autre chose. On peut malheureusement tomber dans le péché. Mais dès qu'on tombe, tout de suite, le Saint-Esprit nous a mis cette conviction. On confesse notre faute. On reconnaît au Seigneur, oui, j'ai fait quelque chose qui est contre ton commandement de s'aimer les uns les autres. Je te demande pardon. Et le Seigneur va nous dire, OK, par mon sang, je te purifie de tout péché et rétablis la relation avec nous. Parce qu'oubliez pas, Le péché brise notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas que ça nous enlève notre vie éternelle. Ça brise la relation. Est-ce que vous vous rappelez que, selon la parole de Dieu, dans le livre de Jacques, est-ce que vous réalisez que certaines personnes, s'y prient, sont plus efficaces que d'autres? Certaines qui vont prier Dieu, qui vont demander des choses au Seigneur, souvent, ils sont exaucés plus rapidement que d'autres. Pourquoi? OK, ils connaissent, oui. Mais à part ça, Jean qui... Comment? Exactement. Si on vit dans la lumière avec lui, on confesse nos péchés. Et puis comme Jean qui dit, si tu vois un riche arriver dans ton assemblée, il est tout habillé beau, tu sais, en arbre de Noël, là, tu sais. Et tu dis, oh, assis-toi ici à côté de moi. Puis tu vois un autre qui est tout pauvre, là, tu sais, avec des vêtements tout déchirés. Hey, toi, assis-toi à terre. Jean qui capote bien raide là-dessus. Il dit non. Là, tu es encore dans l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Et puis, finalement, il parle de toutes sortes de choses comme ça pour dire après ça, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, le Seigneur nous regarde. Il développe avec nous une vraie communion. C'est pour ça qu'il a rétabli par sa parole et surtout par son Saint-Esprit en nous, par la nouvelle nature, par Jésus-Christ. Il développe une relation. C'est pour ça que c'est très important, nous tous, de garder une relation vraiment claire, dans la lumière avec le Seigneur, pour marcher avec lui. Et si vous avez fait quelque chose que le Saint-Esprit vous convainc de péché, justifiez-le pas. OK? Expliquez-le pas pourquoi. Oh non, mais okay, j'ai fait ça parce que j'ai le droit, blablabla. T'sais. Non. Confessez votre faute au Seigneur afin d'être pardonné et purifié pour que, de plus en plus, le Père vous trouve agréable. Paul nous parle qu'on peut être désagréable ou agréable à Dieu, le Père. Et plus on va être des gens agréables au Seigneur, bien, plus il va nous honorer, lui aussi, en nous amenant dans ses œuvres. Et notre vie de prière va être beaucoup plus efficace que la personne qui vit dans le péché et qui souvent va prier, tu sais, puis le Seigneur dit, non, mets ta vie en règle. C'est vraiment important pour nous. Il faut se l'encourager, il faut se le dire. Celui qui pratique le péché, bien, je suis désolé, il est dans les ténèbres. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas tomber dans le péché. S'il tombe dans le péché, tout de suite, on est sous conviction. Et le confessez-le, abandonnez le péché par la foi. Tournez-vous vers le Seigneur en disant, « Oui, tu as raison, je suis coupable, je te demande pardon. » Si vous avez blessé quelqu'un, bien, allez voir la personne, demandez pardon. Et quand vous demandez pardon à quelqu'un, on va mettre encore, je l'ai dit souvent dans les années passées, là, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, là, mais on va le redire encore. Si tu demandes pardon à quelqu'un, tu ne peux pas exiger qu'il te pardonne. Non, non, il y en a des épées de même. Je ne veux pas m'énerver. Non, il y a des gens qui sont assez arrogants d'avoir fait des victimes. Après, c'est de dire, je te demande pardon, il faut que tu me pardonnes. Puis ils réclament de reprendre tout le pouvoir sur la personne. Ah, oh, c'est pas là. Je suis de la misère, j'en reviens pas. Je dis, coudon, Seigneur, es-tu vraiment régénéré ou bien il est dans les ténèbres totales? Quand tu as fait du tort à quelqu'un, là, puis même j'avais essayé d'expliquer à personne, ah non, il faut qu'elle me pardonne, il faut qu'elle me pardonne, il faut qu'elle me pardonne. Je dis, attends, wow, tu en as fait une victime. Elle ne te trosse plus, elle ne te fait plus confiance, mon pauvre toi, avec tout ce que tu as fait. Puis il ne comprenait pas. Je lui ai donné une illustration, OK? Puis tu vas mieux comprendre. Il m'a donné une illustration. Ça veut dire que toi, non, non, si je fais quelque chose, je demande pardon, il faut qu'elle me pardonne. OK. Donc, je vais faire quelque chose avec toi de bon, OK? Je vais prendre un bat de baseball, je vais te frapper la mâchoire, je vais la casser, puis un tout bien cassé, tu sais, puis tu saignes de la gueule, je vais te dire, ah oh ben, j'ai demandé pardon au Seigneur, je te demande pardon, faut que tu me pardonnes, viens-t'en, on va aller manger une petite crème glacée. Qu'est-ce que tu en penses? Ben non, je vais avoir mal à la gueule. Ben oui. Ben, faut que tu me pardonnes. Hein? Ben, il dit, ben non, ben là, je vais être une victime. Ben, peux-tu comprendre un peu plus? Tu n'as jamais le droit d'exiger de quelqu'un de te pardonner. Tu peux juste aller t'humilier devant la personne, je te demande pardon. Et puis tu t'en remets au Seigneur. Voir si le Seigneur est capable de guérir, restaurer la personne. Et est-ce que tu es digne de confiance, toi, après? Est-ce que tu réalises dans le péché, tu as brisé la confiance de la personne? C'est vraiment important entre nous autres de faire très attention dans nos relations humaines. Très important. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se nourrit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger. C'est juste des dictateurs qui exigent qu'on leur fasse confiance, sinon ils les mettent en prison. Mais la vraie, vraie autorité du Seigneur, c'est celle que vous avez gagnée parce que vous êtes digne de confiance. Et les gens vont vous faire confiance. Ils vous voient vivre dans l'intégrité. Ça, c'est très important pour nous autres. Le Seigneur nous observe. Il nous observe. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, pour qu'on puisse être une Église qui prie et que le Seigneur nous écoute en disant « OK, je vous écoute parce que vous m'écoutez d'abord. Vous m'obéissez d'abord. » Et puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir toujours devenir de plus en plus efficace. Puis, je vous remercie énormément pour toutes les dîmes, les offrandes que vous offrez. Ça, on donne la faculté de théologie et on participe avec eux autres pour former plein d'ouvriers. Puis, pas juste au Québec maintenant, même dans le monde francophone. En même temps, merci énormément parce qu'il y a plein d'enfants en Haïti qui mangent. Surtout en ce moment, dans un temps de crise énorme. Et le choléra est en train de tuer des gens un peu partout. Parce qu'ils n'ont même plus d'eau douce parce qu'il n'y a plus de pétrole. Puis de soutenir aussi le salaire du docteur Odena, qui fait un travail incroyable avec toute son équipe, sa femme, tout ça. L'équipe aussi dans le village. Dieu nous a amené des hommes et des femmes de confiance avec qui on peut travailler, fils aimé, toute la gang là-bas, Tavenot, tout ça. C'est vraiment un privilège. Perdez pas de vue, l'amour nous prince à donner pour les soutenir. Vous nourrissez pas juste des enfants, vous nourrissez aussi toutes les plus pauvres des villages, qui sont des aveugles, qui sont des gens totalement... Après, les gens prennent le surplus de nourriture puis ils les amènent à les nourrir. Et puis le village est complètement transformé. Quand le Seigneur nous a amenés là, bien, il est venu, il nous a amenés avec lui dans le village. C'est lui qui a rebâti Tiverny. Aujourd'hui, tout le monde a une petite maison. Ils ne vivent pas juste en dessous d'une toile ou une tôle. Ils ont des petites maisons, toute la gang. Ils mangent. Les choses sont en train de se développer. C'est vraiment encourageant, puis je vous remercie énormément, malgré toutes les épreuves qu'on a pu vivre dans tout ça. Même chose pour tous ceux qui soutiennent en Afrique, d'être collaborateurs avec Pasteur Kudjo et collaborateurs aussi avec Dr Stéphane. Est-ce que vous réalisez que quand on les soutient, on les encourage, on est avec eux autres? Jésus nous a dit quelque chose de très important. Monsieur Tremblay, vous avez déjà lu un livre là-dessus, hein, sur les récompenses. Est-ce que vous réalisez, le Seigneur dit, si tu donnes un verre d'eau à un juste en qualité de juste, tu vas avoir la récompense du juste. Écoute, moi, je suis content de voir que notre Église soutient ces gars-là. Tu sais, un gars comme Kudjo, il va avoir des récompenses, ce gars-là. C'est un phénomène, Pasteur Kudjo. C'est un homme de Dieu qui a organisé toute sa vie pour sortir l'Évangile partout dans l'Afrique. Il va même dans certains pays extrêmement dangereux. Puis moi, je le trouve trippant, ce gars-là. T'sais, imaginez, il a crashé un moment donné. Hein? Vous vous rappelez son histoire? L'avion a carrément crashé. Il était pris dans l'avion. Et puis, il y avait plein de monde, des gens qui étaient morts. Puis, il dit, il y avait une grosse madame qui était sur moi. T'sais. Puis, en plus, elle était avec des talons hauts. Puis, son talon, il était pour faire un trou dans sa joue. Là, c'est pas trop. Et puis, là, il essayait de la pousser. T'sais. Puis, à un moment donné, il a vu le feu qui a commencé à pogner dans l'avion. Ah, il dit, Seigneur, écoute, peux-tu me sauver, s'il vous plaît? Je ne veux pas mourir brûlé, je ne veux pas mourir brûlé. T'sais, au secours, t'sais. Et puis, à un moment donné, le Seigneur a fait que les gars qui étaient autour de l'avion ont aperçu qu'il y avait un gars qui est vivant encore dans l'avion. Ils ont réussi à le sortir de là. Ils l'ont emmené à l'hôpital pour 2-3 jours. Et puis, il avait annoncé l'Évangile avant de partir à un sénateur. Le sénateur est mort, ses enfants, ses fils l'ont su. Et puis, quand ils ont su que leur père était mort, bien, ils disent, on va aller le chercher là-bas. Là, et puis, ils ont su, parce que le père avait parlé de Kudjo. Hey, il y a un pasteur qui m'a parlé de l'Évangile, puis je me suis tourné vers Jésus. Fait que ce gars-là, il est sauvé aujourd'hui. Il est mort dans l'avion, mais il est sauvé. Il a cru en Christ. Et puis, ses fils ont dit, on peut-tu vous faire un service à vous, M. Kudjo? Bien, il dit, écoutez, moi, je devais aller dans, je pense que c'était dans le bout de Goma, là, au Congo. Je devais aller faire une conférence pour formation de pasteur là-bas. Ah oui? Bien, si vous voulez, on peut vous amener. On a un jet privé. Puis le gars, il dit, OK, attendez, là, je suis un petit peu raqué, là, tu sais. Et puis, ils l'ont sorti de l'hôpital, ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont emmené. Moi, Je le trouve trippant, ce gars-là. Hein? Pas vrai? C'est pas un efféminé spirituel, lui? Trop beau, ce gars-là. Tu sais, tout craqué, là, tu sais. Il s'en va faire sa conférence, puis après ça, il retourne chez eux. De soutenir ce gars-là, c'est un privilège. Parce qu'en tant qu'Église, si on le soutient, comme on le fait en ce moment, puis comme je vous dis, si vous voulez continuer à donner, vous pouvez donner aussi de manière, comment on dit ça, Yvan? Neutre? À la mission? Comment ça s'appelle ton affaire? Parce que tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui donnent surtout pour Haïti, hein?
Mission générale.
Mission générale? OK. Mission générale. Si vous voulez donner pour mission générale, bien, ça va soit pour l'Afrique, soit pour Haïti. Vous allez toujours juger où ça se développe. Puis je vous dis, c'est un privilège. Pas trippant, ça? Vivons en ce moment. C'est notre période la plus précieuse de toute notre éternité en ce moment. On est entièrement sauvés, OK? Parce que Jésus est mort pour nous autres. On n'a pas besoin de tourner sur le judaïsme puis manger de jambon, ainsi de suite. Là, vous pouvez manger du jambon, c'est pas de problème. Mais savez-vous quoi? On est présentement dans la seule période de notre éternité depuis qu'on est sauvés où on peut développer une relation de confiance avec le Seigneur qui a une valeur. Parce qu'oubliez pas, la journée que vous allez mourir, quand vous allez arriver dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas dire « Ah, moi, je t'aime! » Moi, je sais qu'un ange va te regarder en disant « Etika, réveille-toi, tout le monde l'aime ici. » C'est ici que ça vaut la peine d'aimer le Seigneur, parce qu'on est au milieu de ceux qui y crachent d'en face. On est au milieu de ceux qui servent de son nom pour sacrer. On est ici des gens qui sont en train de se vanter de carrément abandonner les commandements du Seigneur. Jésus le dit, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, vous dites publiquement, vous m'haïssez. » On vit au milieu des gens qui haïssent le Seigneur Jésus, qui veulent vivre que pour eux-mêmes. Ils vivent dans l'impudicité, dans la cupidité d'une manière malade mentale. Donc, c'est un privilège qu'on a aujourd'hui. C'est un privilège qu'on a de vivre par la foi en lui. Puis moi, plutôt, on est en train de partir. Hein? Toi, tu vas partir un an avant moi, que tu me dis tout le temps. Non, mais c'est, écoutez, pendant qu'on peut marcher avec lui, t'sais, merci pour toute l'équipe de la pièce de théâtre. Merci pour tous ceux qui vont donner un coup de main au portail, parce qu'en participant avec eux, là, l'Église participe financièrement et des volontaires qui s'en vont aider là-bas. On participe aussi à nourrir les pauvres, comme Jésus a dit, « Quand j'avais faim, ben m'avez nourri. » Calvin, c'est les gars, il faut se réveiller. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas s'endormir. Organisez vos vies. Comment on peut être participant à l'œuvre de Dieu? S'il vous plaît. Parce que bientôt, là, un petit battement de cœur, puis on va se réveiller au ciel. Ça va être le fun, ça. OK, on remet ça au Seigneur. Écoute, Seigneur, rends-nous conscients de ta présence. Seigneur, tu nous as tellement, mais tellement bénis, Seigneur Dieu. Tu nous as souvent même, toute l'équipe, parlé pour nous montrer ta volonté. Et tu l'as confirmé. Juste, Seigneur, quand... C'est un moment mémorable d'une manière incroyable. Tu sais, quand tu nous avais mis à cœur un petit groupe qu'on était dans prière et jeûne depuis longtemps, que tu nous avais dit que tu nous amèneras en Haïti pour aider ton peuple là-bas, ceux qui croient en toi. Bien, Seigneur, je te dis, écoute, comment on peut être sûr que c'est toi, pas nous autres, qui s'imaginent ça? Et puis, je suis content parce que Richard, qui est à côté de moi, il dit, « Hey, les gars, pendant que je priais avec vous autres, là, j'ai l'impression que le Seigneur, il va nous amener dans un gros bateau blanc, puis en plus, on va le conduire. » Le conduire? Écoute, un bateau, chum, eh bien, c'est ce que tu as fait. Tu l'as fait, Seigneur, 2-3 ans après, tu nous amènes en Floride, en plus, tu nous donnes de peindre tout le bateau en blanc, et puis après ça, écoute, Jésus, je te remercie d'être tellement gentil avec moi. Là. Bien, j'étais le soir avec l'équipe. C'est moi qui avais la roue du bateau, que je conduisais le bateau. J'en reviens pas, Seigneur Dieu. T'es comique. Parce que c'est vrai que tu peux utiliser des imbéciles pour confondre les sages. Fait que je suis content d'être un imbécile chronique. Et puis, pour donner de l'espoir à tout le monde à l'Assemblée, on n'a pas besoin d'être des super-héros par soi-même. Il s'agit juste de discerner ta volonté, s'encourager les uns les autres, se soutenir les uns les autres pour continuer à marcher avec toi, parce que c'est toi qui pourvois à toute ta volonté. Seigneur, s'il vous plaît, que toute l'Église soit réveillée, et surtout nos petits-enfants, Seigneur. Moi, ma supplication, c'est que tous nos petits-enfants te connaissent, que ce ne soit pas juste une religion pour eux autres, qu'ils te connaissent parce que tu es tellement, tellement bon. Tu es tellement véritablement amour. Tu nous as aimés au point de souffrir énormément pour nous sauver. Seigneur, on ne veut pas salir ton nom. On veut au contraire, Saint-Esprit de Dieu, marcher afin que tu glorifies le nom de Jésus. Et merci encore une fois pour la persévérance de tout le monde ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, tout le monde. Merci d'être venu.